Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation du journal, Grâce Hamzati.
Plusieurs réactions après les sanctions des États-Unis contre James Kabarebe et Lawrence Kanyuka pour leur rôle dans la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ces gestes marquent les débuts d'une longue série de sanctions que nous espérons plus robustes, estime le ministre congolais de la Communication et porte-parole du gouvernement. Mais pour le Rwanda, ces sanctions sont injustifiées et ne résolvent pas les problèmes de la région. Nord Kivu, le comité international de la Croix-Rouge vole au secours des déplacés sommet de vider les sites dans et autour de Goma. Le CICR dit avoir entamé la phase d'évaluation des besoins humanitaires dans les localités devant accueillir ces familles exilées depuis des années. Notre invitée est la directrice du Centre national de transfusion sanguine. Elle nous parle de la campagne de collecte et dons de sang lancée depuis 3 semaines à Kinshasa en faveur des militaires FRDC et des civils blessés de guerre dans l'est du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions à James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka, porte-parole civile du mouvement du 23 mars M23. Ces bureaux justifient sa décision par l'intention de tenir responsables les dirigeants clés tels que Kabarebe et Kanyuka qui permettent à l'armée rwandaise et au M23 de mener des activités déstabilisatrices dans l'est de la RDC et de commettre des violations des droits de l'homme. Bien que cette mesure soit accueillie favorablement en RDC, le Rwanda craint que cette décision ne résolve pas les problèmes de la région. Ronelin Tibunira.
Réagissant à ces sanctions sur sa page Twitter, Patrick Muyaya, ministre congolais de la Communication, a déclaré que ces gestes marquent le début d'une longue série des sanctions que nous espérons plus robustes de la part du Conseil de sécurité, de l'Union européenne et d'autres partenaires afin de contraindre le Rwanda à retirer ses troupes et à cesser ses activités criminelles sur notre sol, a-t-il écrit. Les ministres rwandais des Affaires étrangères qualifient ces sanctions contre James Kabarebe d'injustifiées. Dans un communiqué rendu public jeudi, ces ministères rappellent que si les sanctions étaient un moyen sûr de ramener la paix dans la région de Grand Lac, cette paix aurait dû être une réalité depuis longtemps. S'invitant dans les débats, le mouvement citoyen Lucha RDC Afrique considère ces gestes comme apportant un certain soulagement. Cependant, cette organisation appelle les États-Unis à étendre ses sanctions à d'autres personnalités clés impliquées dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, comme l'a déclaré Espoir Mouinouka. Ces sanctions interviennent alors que le M23, soutenu par le Rwanda, poursuit des offensives militaires dans l'est du pays après avoir pris le contrôle de la ville de Bukavu dimanche dernier.
Merci pour toutes ces précisions, Ronelin Tibonera. Parlons de la tenue hier à Lubumbashi d'un culte œcuménique pour la paix organisé par une délégation de la CENCO et de l'ECC. Cette délégation revient d'une tournée afro-européenne où elle a rencontré plusieurs acteurs qu'elle considère comme pouvant contribuer à la paix dans la région des Grands Lacs et à RDC en particulier. Au cours de ces cultes, outre la CENCO et l'ECC, d'autres confessions religieuses y ont pris part. C'est notamment les kimbanguistes et les musulmans. Tous ont appelé à la paix et au vivre ensemble. Cette rencontre était aussi une occasion de mobiliser la population dans le cadre de la campagne dénommée « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble ». Témoin de l'événement, Jean Gandou.
Le secrétaire général de la CENCO, Mgr Donatien Cholet, a d'emblée expliqué le sens de la démarche que mènent ces deux confessions religieuses. Pour lui, depuis plus de 3 décennies, les tentatives tant militaires que diplomatiques ont démontré leurs limites, car les conflits armés demeurent toujours. Ils ont occasionné la mort de plusieurs milliers de personnes et poussé plusieurs millions d'autres à l'errance, à la famine et à la misère de toutes sortes. Face à cette triste réalité, seul le dialogue paraît comme une solution dans le cadre de ce qu'ils appellent pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Ils en appellent donc à l'organisation d'un forum pour la paix. Cette rencontre ne mettra pas le saint en face des diables, plutôt les uns à côté des autres, afin de se parler pour aplanir les divergences et surtout renforcer le vivre ensemble au lieu de recourir aux armes. Pour le porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Senga, si le jugement des uns vis-à-vis des autres prend les déçus sur le pardon, il est donc difficile d'arriver à la paix. Il a appelé tout le monde à se réexaminer pour voir si on est encore dans la bonne direction. Il a conclu en disant que le Congo devra rester un et indivisible. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pour sa part, le gouverneur de la province de la Tchopo appelle la population de sa juridiction au calme et à vaquer paisiblement à ses occupations. Cet appel est contenu dans un message diffusé à la radio-télévision nationale congolaise à longueur des journées. Ce message de l'autorité provinciale intervient dans un contexte de folles rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux depuis un certain temps. Ces rumeurs font état de la présence des rebelles dans cette entité. Pour Paulin Lendongolia, il n'en est rien. Les gens peuvent vaquer paisiblement à leurs occupations. Un extrait de son message est sélectionné par Jacques Mukonkole.
Bazali kobangi sabino kope sabino ba information ya lokuta ezali ba ini bakolinga.
Ils sont en train de vous effrayer en vous donnant de fausses informations. Ce sont des jaloux qui veulent vous pousser à abandonner vos maisons pour qu'ils viennent se livrer au pillage. Je vous rassure, la ville de Kisangani est sécurisée. Vos services de sécurité ont déjà pris des dispositions idoines pour la protection de la population et c'est bien. Que chacun vaque à ses occupations habituelles. Que les jeunes se fassent en au service militaire pour la protection du territoire national afin que nous puissions léguer cette terre à nos enfants comme nous l'avons hérité aussi de nos ancêtres. Restons vigilants. Au moment où notre province prend l'élan du développement, ce n'est pas le moment de reculer, de vivre la barbarie que l'armée rwandaise est en train de commettre en RDC.
Ce n'est plus le moment ya kozonga sima ko vivre barbarie où l'armée rwandaise isa ko commettre na kati ya République.
Abondant dans le même sens, le commandant de la 31e région militaire exhorte la population à ne pas céder à la panique. Dans un communiqué publié à cet effet, le général-major Timothée Mujingamij rassure. Selon lui, la police et les FARDC sont pleinement mobilisés pour assurer la sécurité des populations et la protection des biens. Toutefois, il appelle la population à la vigilance et à la collaboration avec les forces de sécurité. Nous l'avons dit au sommaire, au Nord Kivu, le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, entend accompagner les familles des personnes déplacées internes, sommet de vider les sites dans et autour de la ville de Goma. Lors du briefing des presse organisé mercredi à Goma, Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR pour la province Nord Kivu, a affirmé que son organisation avait entamé la phase d'évaluation des besoins humanitaires dans les localités devant accueillir ces familles exilées depuis des années. Chris Mukand.
Le but annoncé de cette évaluation est d'identifier rapidement les priorités en vue de mettre en place des interventions ciblées visant à accompagner ce retour progressif. Le brusque démantèlement des sites déplacés a mis les familles dans une situation plus qu'embarrassante. Après près de 3 années entières d'abandon de leur milieu de vie, les familles qui ont pris le chemin de retour sont désemparées. Des témoignages renseignent qu'il n'existe plus aucune infrastructure dans la plupart des localités. À Sake, par exemple, il n'y a presque plus de maisons. Pendant que les propriétaires étaient dans les camps des déplacés à Goma, des inconnus ont incendié les habitations dans plusieurs quartiers de la cité. À leur retour, c'est la désolation totale. Pas d'abri, pas de plantation, impossible de survivre dans un milieu devenu presque hostile. La situation est identique pour les retournés d'autres localités telles que Chacha, Bweremana, Karuba ou Ngungu. Les familles qui sont retournées ne savent pas par où ou par quoi commencer. Tout est pressant. Il faudrait prioritairement se construire des abris et produire de la nourriture. Aucun espace n'est sûr. La zone n'a jamais été nettoyée de tous les restes de guerre et des cas d'insécurité sont rapportés.
18h, 8 minutes dans ces studios, le journal se poursuit. Après une journée trop agitée hier à Uvira, la ville qui a été secouée par des actes de pillage, de vandalisme, des tirs désordonnés à balles réelles et d'atteinte à la dignité humaine, une accalmie s'observe ce vendredi. L'économie de toute la ville a été mise par terre dans moins de 24 heures avec une violence inouïe. Un acteur de la société civile locale témoigne sous anonymat le calvaire que la population a vécu hier dans cette ville de la RDC, située en face de Bujumbura, la capitale du Burundi. Suivez.
Sincèrement, la situation que nous traversons dans la ville de Vera, elle est tellement compliquée du fait que nous assistons à des pillages, à des viols, vols par nos militaires et FARDC qui sont restés dans la ville de Vera parce qu'actuellement, ces militaires n'ont plus aucun commandement. La nuit d'aujourd'hui vraiment a été une nuit rouge. Plusieurs maisons ont été visitées par ces militaires qui ont pillé, qui ont volé, qui ont violé même nos mamans. Et c'est là que nous profitons l'occasion pour alerter nos autorités au niveau de Kinshasa parce que toutes les autorités décident qu'ils vont prendre fuite. C'est-à-dire aujourd'hui la population est abandonnée à leur triste sort. En tout cas, nous déplorons cette situation et nous informons vraiment Kinshasa de voir comment vraiment nous venir en aide, mais aussi la communauté internationale de voir comment s'impliquer pour mettre fin à cette situation.
Merci de nous écouter à Kindu, dans la province du Maniema, où nous abordons les sujets sur le faible taux de desserte en eau potable. La régie des eaux, appuyée par ses partenaires, ne dessert que 10% pour une population estimée à 440 000 habitants dans la ville de Kindu. Selon le directeur provincial de la régie des eaux, il y a beaucoup de défis à relever dans sa société. Michel Tijik fait savoir qu'il faut réunir 8 millions de dollars pour la construction d'une chaîne de traitement complète au niveau du fleuve pour espérer être en mesure de porter le taux des dessertes des 10 d'aujourd'hui jusqu'à 72%. Michel Tijik est au micro de Florence Kizalonga.
Comme vous parlez de la population de la ville de Kindu, je voulais prendre la situation générale. Ça veut dire la régie des eaux aujourd'hui donne autour de 2000 mètres cubes plus les AZUREP. On est autour de 2600. C'est ça la somme de la capacité fonctionnelle. Alors que le besoin de la population se chiffre à 26 400. Donc nous sommes à 10% du taux de desserte en eau potable au niveau de la ville. En fait, les capacités installées sont faibles et la solution c'est d'augmenter la capacité de fonctionnement. Donc, construire une usine, étant donné que les études existent, il faut aller dans ce sens, mobiliser les efforts ensemble et construire cette usine, remplacer les canalisations, construire les réservoirs et également poser des nouveaux branchements pour permettre à ce que la plus grande partie des personnes aient de l'eau. Nous tendons la main au gouvernement provincial. D'ailleurs, nous avons parlé avec son Excellence, le monsieur le gouverneur, qui a tout de suite orienté la chose vers le gouvernement central. Peut-être une requête de financement sera faite pour que nous puissions ainsi espérer être financés par une institution internationale.
Ici, à Kinshasa, faciliter et sensibiliser tous les Congolais sur leur droit d'avoir accès à l'Internet, c'est l'objectif principal d'une journée de formation et de réflexion organisée mercredi par Internet Society RDC. Il était question de donner des explications aux participants sur le fonds de développement du service universel qui a été institué par décret en 2022 afin de répondre au défi d'accélérer la connectivité dans les zones rurales et désertées par les opérateurs classiques en RDC. Cette activité a réuni des décideurs politiques, des scientifiques, des experts du domaine ainsi que la société civile. On écoute Kevin Mukindi, secrétaire général de Internet Society RDC.
Nous avons organisé cette masterclass pour que, ensemble avec toute la communauté, trouver des voies et des solutions pour mettre rapidement en œuvre ces fonds et aussi trouver comment ces fonds pourra bénéficier à la plus grande partie des Congolais qui ne sont pas connectés actuellement. Comme vous le savez, nous avons que 33, quelques pourcents des Congolais qui sont actuellement connectés à l'Internet. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que Internet soit accessible à tout le monde. Et ces fonds a poursuivi les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire connecter des nouveaux usagers. Alors nous, ce que nous allons faire, c'est travailler ensemble avec ces fonds pour trouver ensemble des zones qui ont besoin en urgence de l'Internet, mais aussi d'autres services numériques. Nous l'avons déjà fait, nous finançons en fait des réseaux communautaires un peu partout dans les pays. Nous l'avons fait une première fois dans les sites Kivu. Tous les Congolais ont droit à avoir accès à Internet. En réunissant tout le monde ici, c'est pour sensibiliser chaque Congolais pour qu'il comprenne qu'il existe déjà un fonds et qu'ils puissent exiger à ce que ces fonds soient utilisés comme il se doit.
Et puis, le comité de pilotage du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabea Cobalt, a au cours de sa première réunion d'échange de l'année 2025 tenue hier au Pullman Hotel ici à Kinshasa, évalué positivement les résultats atteints par ce projet du gouvernement de la RDC financé par la Banque africaine de développement BAD depuis son lancement en 2019. Il ressort que 13 587 enfants sur plus de 16 800 identifiés ont été maintenus dans le circuit scolaire et ont bénéficié de la prise en charge sanitaire, psychosociale et de l'enregistrement à l'état civil dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Maître Alice Mirimon Kabeti, administrateur directeur général du Fonds national des promotions et des services sociaux et coordonnatrice du Pabea Cobalt, explique au micro de Jean-Marc Matoaki.
Ces résultats sont énormes. Plus de 13 000 enfants sont pris en charge par le projet, leur scolarité, la santé, les aspects psychologiques et l'état civil. Et le projet vient de finaliser la construction de deux grands centres de promotion de l'agro-business qui va encadrer les parents des enfants qui ont été sortis des mines de cobalt et pour que ces parents soient capables eux-mêmes de continuer la prise en charge de leurs enfants même après le projet. Le deuxième aspect important qui a été soumis au comité de pilotage, c'est la validation du plan de travail et du budget annuel 2025. Et dans ce plan de travail, il y a des événements très importants. C'est la consolidation des acquis du PABA Cobalt, l'opérationnalisation des CPJAB, parce que les CPJAB vont interagir avec les coopératives qui seront organisées par les parents des enfants sortis des mines et des jeunes qui ont accepté d'équiper les mines artisanales pour se donner à l'agro-business et ils vont développer de l'entrepreneuriat.
Sachez qu'au cours de cette rencontre, le comité de pilotage a également travaillé sur un plaidoyer de haut niveau à soumettre au leadership, en l'occurrence la première ministre, plaidoyer amené au niveau du Conseil des droits de l'homme et de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi qu'auprès du gouvernement américain au sujet du cobalt congolais.
Actualité internationale.
Hier, les experts de la Commission sur les droits humains de l'ONU au Soudan du Sud ont achevé une visite de 4 jours dans le pays. Ils se sont adressés à la presse à Djouba et c'est un tableau bien sombre qu'ont dépeint Yasmine Souka, Barney Afako et Carlos Castrezana Fernandez, les 3 experts membres de cette commission créée en 2016. Alors que le pays entamera le 22 février une nouvelle prolongation des 2 ans de sa transition vers des élections repoussées à décembre 2026, ils ont sonné l'alarme sur l'état des droits humains dans le pays.
L'invité.
3 semaines après le lancement à Kinshasa de la campagne des dons de sang pour les militaires FARDC et les civils blessés des guerres dans l'est du pays, quels sont les résultats obtenus? La mobilisation est-elle au rendez-vous dans les centres de collecte? Pour répondre à ces questions, nous recevons le docteur Liliane Bouiza, directrice du Centre national de transfusion sanguine. Elle s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Docteur Liliane Bouiza, bonjour.
Bonjour.
Depuis 3 semaines, le gouvernement conduit une campagne de dons de sang en faveur de la population de l'Est. Quelles sont les motivations de cette campagne?
Comme vous le savez, notre pays aujourd'hui, il est agressé, il est en pleine guerre et nous enregistrons beaucoup de blessés de guerre et nos militaires, nos vaillants sont en train de mourir par manque de sang et aussi nos frères et sœurs aussi qui sont blessés. La population du Nord Kivu de l'Est actuellement n'est pas dans une étape psychologique pour donner vraiment du sang comme on faisait par le passé. Au vu de cette carence de produits sanguins, son Excellence, Messieurs les ministres de la Santé publique a initié cette campagne de dons bénévoles du sang pour vraiment appuyer, aider cette population longtemps meurtri.
Jusque-là, quels sont les résultats de cette campagne?
On a senti vraiment cet altruisme qui est en train vraiment de naître dans cette population de Kinshasa. Ils sont en train de passer, s'inscrire pour partager un peu de leur sang. Il faut dire qu'ils donnent du sang, mais ce n'est pas encore suffisant tel que nous le voulons pour satisfaire le besoin en sang dans la partie de l'Est.
Et comment les sangs collectés à Kinshasa va arriver à la population de l'Est?
Effectivement, comme je vous ai dit, qu'il y a vraiment cette volonté des autorités sanitaires au niveau du ministère. Le ministre de la Santé n'aménage aucun effort pour forcer un couloir humanitaire qui est déjà un acquis. Aujourd'hui ou demain, vous allez vraiment voir les images que les poches de sang sont en train d'aller vers Goma en passant par le couloir humanitaire.
Et au niveau du Centre national de transfusion sanguine, est-ce que vous avez les capacités de répondre à tous les besoins qui se posent actuellement dans les pays?
Oui, effectivement, à ce qui concerne vraiment cette capacité technique, nous avons 2 ressources humaines capables de le faire. Nous avons 2 matériels qu'il faut. Nous avons des sensibilisations dans les 3 coins de la ville. Il y a l'autorité sanitaire qui nous appuie dans cette campagne, dans cette sensibilisation. Nous sommes en train de faire un effort pour contenir la situation jusque-là. Mais ce que je vais dire, le besoin ne fait que s'accroître.
Et dans ces conditions, quel message avez-vous à donner à la population de Kinshasa afin de mobiliser plus de monde dans cette campagne?
C'est que je veux dire que le sang, vraiment, c'est la vie. Si on n'a pas de sang, c'est difficile qu'on résiste. Alors, nous tous, nous sommes là, un peuple. Les Nord qui vaut, les Sud qui vaut, l'Est, le sang est en train d'écouler. Nos vaillants militaires sont blessés. Les gens sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas de sang. Actuellement, dans la partie de l'Est, le sang est devenu vraiment une denrée rare. Les femmes enceintes qui accouchent, qui ont besoin du sang, alourdissent encore le besoin en produits sanguins. Nous, les Kinois, frères et sœurs de cette population de l'Est, nous avons besoin de votre soutien. En donnant un peu de votre sang, vous allez sauver toute une vie. Pour ceux-là qui n'ont pas encore donné du sang, nous les attendons dans notre site de travail. En commençant par le Centre national de transfusion sanguine au niveau de Bandal, à côté des communes de Bandal. Et aussi, nous sommes en train d'organiser des points de collecte dans les différents recoins. Je vais citer le Palais du Peuple, certains hôpitaux, nous allons communiquer l'agenda ici présent. Donc, le besoin de sang est grand. Nous avons besoin de tout le monde. Il suffit que vous soyez majeur. Vous avez 18 ans. Vous êtes en bonne santé apparente. Vous n'êtes pas une femme enceinte ou allaitante. Nous vous attendons dans nos points de collecte du sang.
Docteur Liliane Bouiza, je rappelle que vous êtes la directrice du Centre national des transfusions sanguines. Merci.
Merci.
Notre invité est interrogé par Rosalie Zawadi. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Gisèle Cage et mis en onde par Mimi Kindou. Grâce à Mzati Massan, c'était la présentation. Vous pouvez les réécouter sur www.radiokapi.net. Suivez-nous également sur notre chaîne WhatsApp dont les liens se trouvent sur nos plateformes digitales dont Facebook et X Radio Kapi. Merci.